je vais vous parler de nutrition. En effet, je vais vous parler de, plus précisément de macronutriments. Alors, c'est nos fameux GPL, les glucides, les protéines, les lipides. Et avant de démarrer cette intervention, j'ai envie de vous poser une question. Je voudrais vous mettre dans une situation qui est un petit peu improbable. Mais voilà, imaginez-vous que vous êtes victime d'un crash d'avion et que vous vous retrouvez en plein milieu du désert. Okay. Vous avez suffisamment d'eau parce que vous avez pu récupérer les réserves d'eau qu'il y avait dans l'avion. Okay. Par contre, vous n'avez plus rien à manger. Ça fait 2-3 jours que vous baladez dans le désert, que vous n'avez plus rien à manger. Et tout à coup, un gars sur un chameau arrive et il vous propose de choisir entre un pack d'une certaine quantité, valeur énergétique, uniquement de protéines, okay, un pack avec la même valeur énergétique uniquement en glucides, c'est-à-dire des sucres lents et rapides, okay, ou un dernier pack, toujours de la même quantité en calories, la même valeur énergétique, en lipides. Alors ma question est, laquelle choisiriez-vous pour survivre et pour continuer votre chemin et essayer de vous en sortir? Est-ce que quelqu'un a une idée? Les lipides? Quelqu'un dit autre chose? Les glucides, les protéines? Oui? Ok, madame, vous pouvez vous lever. On peut applaudir madame. C'est madame qui probablement survivra le plus longtemps. Ok? Pourquoi? Parce que nos protéines, les protéines, en fait, constituent un nutriment indispensable à la vie. Les protéines sont considérées vraiment comme les briques de notre organisme. Elles constituent vraiment l'élément de base de toutes nos cellules. Alors, les protéines, elles ont plusieurs rôles. Elles ont tout d'abord un rôle de structure. Nos muscles sont fabriqués de protéines, nos ongles sont fabriqués de protéines, notre peau est constituée de protéines. Elles ont un rôle fonctionnel, c'est-à-dire que la protéine, elle est précurseur de pas mal d'enzymes, de pas mal d'hormones, de pas mal de neurotransmetteurs, c'est des petits messagers qui nous viennent du cerveau qui sont vraiment importants. Et éventuellement, elle peut avoir un rôle énergétique, un rôle de carburant, même si c'est en effet pas son premier rôle, puisqu'elle n'est pas très énergétique. On voit qu'un gramme de protéine libère environ 4 calories, ce qui n'est pas énorme. Mais quand les stocks en glycogène, donc les stocks, les réserves énergétiques en sucre viennent à manquer et les réserves en lipides viennent à manquer, eh bien, on peut éventuellement utiliser les protéines comme source de carburant. Alors, une protéine est constituée de 20 acides aminés, dont certains sont essentiels, ça veut simplement dire que le corps ne peut pas les fabriquer et qu'il doit les trouver dans l'alimentation. Et d'autres sont non essentiels. Alors, je voudrais juste imaginer un tout petit peu tout ça, parce que ce n'est pas évident. Imaginez-vous un tonneau en bois dans lequel on peut, qui peut contenir du vin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec des lattes. Imaginez que le tonneau, c'est la protéine et que chaque latte, c'est un des acides aminés. Imaginez qu'il vous manque un acide aminé, vous pourrez remplir votre tonneau autant que vous voudrez, il se videra à chaque fois. Donc on dit qu'une protéine est complète quand elle contient toutes ces petites lattes. Et le souci, vous allez voir par la suite, c'est que souvent il en manque une, que le corps ne peut pas fabriquer, qu'il doit trouver dans l'alimentation. Et ça, c'est ce qu'on appelle un acide aminé essentiel. Alors, quels sont les besoins en protéines? Ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend du sexe, si on est un homme ou une femme. Ça dépend de notre activité physique. Ça dépend de l'âge. On sait qu'une fois 35-40 ans, la masse musculaire diminue chaque année. Donc il faudrait pallier à ça en augmentant légèrement les valeurs en protéines, sans jamais apporter plus de 25% de ses calories sous forme de protéines. Alors je m'explique, par exemple, quelqu'un qui aura un régime de plus ou moins 2000 calories, ben, l'idéal c'est de ne pas amener plus de 500 de ses calories sous forme de protéines. Pourquoi? Parce qu'on sait que les protéines, ben, si on en consomme de trop, ce n'est pas bon pour les reins. Et surtout, les protéines sont très acides, donc on pourrait mettre à mal quelque part l'équilibre acido-basique. Alors, ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais aussi pour les enfants, apporter trop de protéines, ce n'est pas forcément bon. On sait que ça augmente réellement le risque d'obésité chez les enfants. Par contre, un manque de protéines, quelque part, ben, on risque de perdre sa masse musculaire. Et on sait que c'est malgré tout la masse musculaire qui va définir notre métabolisme de repos. Donc, au repos, couché dans un lit, chaque personne brûle un certain nombre de calories, en majeure partie grâce à sa masse musculaire. Donc si on perd sa masse musculaire, au repos, cette même personne, quelque part, va brûler moins de calories. Et en plus, un manque en protéines va, quelque part, diminuer la synthèse de neurotransmetteurs. Alors je vais essayer de rendre les choses le plus simple possible, mais les neurotransmetteurs, c'est des petits messagers qui viennent du cerveau et qui peuvent nous donner des informations, qui peuvent réguler notre satiété et notre appétit. Donc, qui dit diminution de ces neurotransmetteurs, ben, dit en effet quelqu'un qui pourra plus facilement prendre du poids. Alors, les nutritionnistes, ils préconisent entre 1 gramme et 1 gramme et demi de protéines par kilo de poids de corps. Une personne de 75 kilos devrait consommer entre 75 et 110 grammes de protéines par jour. de protéines et pas d'aliments. Pour vous donner une idée, dans 100 grammes de viande, il y a 20 grammes de protéines. Dans 100 grammes d'œufs, par exemple, il y a 12 grammes de protéines. Dans 100 grammes de lentilles, il y a seulement 8 grammes de protéines. Et vous allez voir par la suite, ce sont des protéines qui sont plus difficilement assimilées. Dans 100 grammes de quinoa, pour les végétariens, il y a 4 grammes de protéines. Donc 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Alors, on a deux sortes de protéines. On a des protéines animales et on a des protéines végétales. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients. Je vais commencer par les protéines animales. Elles ont une très haute valeur biologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous souvenez de mon tonneau de bois avec les petites lattes, elles contiennent toutes les petites lattes. Donc ce sont vraiment des protéines qui sont très bien assimilées par le corps. Elles sont riches en fer, riches en zinc et en vitamine B12. Par contre, elles sont riches en acides gras saturés, qui sont des graisses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Contrairement aux protéines végétales, qui, elles, sont riches en glucides et en fibres, donc moins riches en protéines. Vous vous souvenez, 100 grammes de quinoa ne contient quelque part que 4 grammes de protéines. Elles sont riches en vitamine B, mais pas la vitamine B12, vitamine C et caroténoïdes. Elles contiennent aussi des graisses, mais beaucoup moins. Et les graisses qu'elles contiennent sont en général des graisses de bien meilleure qualité. Attention, donc, pas de vitamine B12, pas de zinc et pas de fer. Ça, c'est pour les végétariens. Souvent, doivent se complémenter dans ces nutriments. Et le gros souci, c'est les acides aminés essentiels qui manquent souvent. Donc il manque en général une petite latte à mon tonneau. Et donc quand il manque une seule latte, la protéine ne peut pas être assimilée. Donc il faudra faire des associations. On devra associer les légumineuses aux céréales. Par exemple, si vous faites une salade de lentilles, il faudra manger les lentilles avec un peu de pain. Manger des lentilles avec du riz. Manger les haricots, les azuki, peu importe, avec du millet. Il faut vraiment essayer de combiner les légumineuses avec les céréales pour avoir des protéines complètes. Les seules protéines complètes d'origine végétale sont l'amarante, le soja et le quinoa. Il y en a que 3. Mais vous l'aurez compris, il y a moins de protéines dans les protéines végétales que dans les protéines animales. Alors, l'idéal, quand on consomme des protéines, c'est pas forcément facile, mais c'est d'apporter 2/3 de protéines végétales pour 1/3 de protéines animales. Alors je reprends ma personne, je le dis en belge parce que c'est plus facile, 75 kilos. Cette personne va devoir consommer entre 75 grammes et 110 grammes de protéines par jour. On va essayer sur ces 75 grammes d'apporter 50 grammes de protéines végétales pour 25 grammes de protéines animales. Et on essaye d'avoir des protéines animales, d'animaux qui courent, hein, qui vivent en liberté et qui sont bien nourris et qu'on va cuire idéalement avec des cuissons adaptées. Alors, quand font-ils consommer ces protéines ? J'ai envie de dire en tous les cas le matin. Pourquoi ? Parce qu'on sait que souvent le petit déjeuner, c'est un repas qui est fort glucidique. Ça va vraiment nous permettre de diminuer la charge glucidique du petit déjeuner. Et on sait que les protéines ont un effet satiétogène. Les consommer au petit-déjeuner va nous permettre de tenir le coup sans fringale jusqu'à midi et d'éviter les coups de pompe. Mais, alors il faudrait aussi les consommer à midi. Et puis à 16h, vous allez voir pourquoi, c'est quand même important de consommer des protéines à 16h, peut-être un peu moins le soir. Et puis après le sport, pour reconstituer la masse musculaire, c'est important. Alors les protéines, à part ça, elles sont aussi donc précurseurs de neurotransmetteurs, j'ai dit là tout de suite, qui sont vraiment indispensables à la gestion de notre satiété. Et je vais parler de deux neurotransmetteurs qui ont vraiment une importance capitale quelque part, la dopamine et la sérotonine. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces deux neurotransmetteurs. Alors la dopamine, c'est vraiment le neurotransmetteur du matin, parce que c'est le neurotransmetteur de l'action. C'est lui qui va nous permettre d'éviter les coups de fatigue, les fringales, il va nous booster la concentration et la motivation. Donc c'est le matin qu'on en a besoin. La sérotonine, c'est pas pareil. Elle va nous permettre d'être de bonne humeur, d'être zen. Elle va régler les cycles du sommeil. On sait que la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Sorry, hein, ça devient un petit peu dans les détails, mais c'est important. Et donc, quelqu'un qui manque de sérotonine va avoir des troubles du sommeil, risque d'avoir plus facilement une dépression ou d'être dépressif, mais surtout va avoir une attirance pour le sucré et pour le gras. Donc on sait que les gens qui le soir grignotent et après le repas on s'enfile un paquet de biscuits, un paquet de chocolat devant la télévision et ont du mal à faire autrement, eh bien on va leur conseiller de prendre un goûter riche en protéines qui va contenir tous ces acides aminés, qui va être précurseur de ces neurotransmetteurs. Alors, on a une solution par rapport à ça, vous en doutez, l'énergie diète. De manière très très simple, vous avez le juste équilibre protéines végétales, protéines animales, puisqu'on a des quelque part plus de protéines végétales. On a des protéines d'origine de soja et des protéines de pois. À côté de ça, des protéines de petit lait et dans certains énergies diètes, des protéines d'œufs. Mais par contre, je voulais peut-être insister sur une petite chose. Je pense une erreur qui est faite de temps en temps quand vous faites des phases tartares. Alors, je ne sais pas si en France, on consomme autant de lait végétaux qu'en Belgique. Mais en Belgique, on consomme de plus en plus l'énergie diète avec un lait végétal. Un énergie diète réhydraté avec 250 ml de lait animal, donc de vache, apporte 17 g de protéines complètes. Ils contiennent tous les acides aminés, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, un énergie diète réhydraté avec un lait végétal qui n'est pas un lait de soja apporte 8 g de protéines. Quand on fait une phase starter, on met les gens sur 4 énergies diètes sur la journée, c'est-à-dire 4 x 8, 32 g. Si la personne perd 60 kilos, par exemple, c'est une personne qui va perdre du poids, mais c'est une personne qui va perdre sa masse musculaire et c'est une personne qui donc, va reprendre tout aussi vite son poids, si pas plus. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention à ça. Donc n'hésitez pas à conseiller à ces gens-là, bah, peut-être le matin de manger un œuf à la coque sur le côté, de manger une ou deux tranches de jambon à midi, si c'est des végétariens de complémenter avec des légumineuses, peu importe. Mais complémenter ces gens en protéines, c'est vraiment important. C'est compris, je passe au deuxième des macronutriments, les lipides. Alors vous voyez directement, les lipides sont 1 g de lipides libère environ 9 calories. Donc ils sont deux fois plus énergétiques que les protéines et glucides. C'est le nutriment tout simplement le plus énergétique. C'est probablement pour ça qu'ils se sont forgés une mauvaise réputation, mais qui n'est peut-être pas toujours méritée, parce qu'en effet, les lipides ne servent pas qu'à stocker du gras. Il n'y a aucune étude, quelque part, qui prouve que réduire les graisses entraîne une perte de poids durable. Bien au contraire, je pense que dans les supermarchés, dans nos assiettes, on a de plus en plus de produits light, et pourtant le poids moyen sur les balances ne fait qu'augmenter. Bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il faut manger des graisses en excès, c'est certainement pas ça que je veux vous dire, parce qu'on va prendre du poids et ça va être mauvais pour la santé, mais par contre, on va vraiment faire attention à la qualité des graisses qu'on va apporter. Il y a énormément de graisses qu'on consomme en trop petite quantité et qui sont vraiment importantes à la bonne santé, et des graisses qu'on consomme en excès qui ont vraiment un effet délétère. Donc on va se concentrer sur les différents types d'acides gras. Donc il y a différentes sortes de lipides qui ont différentes fonctions dans notre organisme, je ne vais pas tout détailler, mais on va se concentrer sur les trois acides gras principaux, qui sont les acides gras saturés, les acides gras insaturés, alors les monoinsaturés et les polyinsaturés, je suis vraiment désolée, mais je ne pouvais pas simplifier plus, et les acides gras trans ou hydrogénés. Alors je vais commencer par ceux que vous voyez là en haut, les acides gras saturés. Ils sont souvent solides à température ambiante, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître, et ils sont très souvent d'origine animale. Alors, ils peuvent être d'origine végétale, c'est l'huile de palme, c'est l'huile de coco, et ils peuvent aussi être fabriqués par notre propre organisme quand on apporte des glucides en excès. Ils vont se fabriquer par notre propre corps. Alors, leur impact, et je ne vais pas rentrer dans les détails, va vraiment dépendre en fait de la longueur de ces molécules, la longueur de leur chaîne. Et le plus connu, quelque part, le plus néfaste, c'est l'acide palmitique, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de choses malheureusement, qui est pro-inflammatoire, il va favoriser l'inflammation. Il est athérogénique, ça veut dire qu'il va favoriser les plaques d'athérome dans les artères. Il augmente sensiblement le risque de diabète 2 et il est hypercholestérolémiant, il augmente le cholestérol. Et malheureusement, ce sont des graisses qui sont très très abondantes dans notre alimentation. Et le problème aussi, c'est qu'on les stocke, on les stocke très très facilement. Alors, le deuxième de ces acides gras, ce sont les acides gras insaturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Les monoinsaturés, c'est ceux qu'on trouve dans l'huile d'olive, dans les avocats, dans les oléagineux. C'est les oméga 7 et les oméga 9. Ils protègent le système cardiovasculaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des bonnes graisses. On en a besoin. Mais le corps peut aussi les fabriquer. Donc, soit il les trouve dans l'alimentation, soit il les fabrique lui-même. Au contraire, nos fameux oméga 3 et oméga 6, les polyinsaturés, ceux-là, le corps ne peut pas les fabriquer. Et on estime qu'en France, alors peut-être juste pour vous donner un peu une idée où on trouve les oméga 3 et les oméga 6, les oméga 3, ils sont très fragiles et on n'en trouve pas beaucoup. Les oméga 6, ils sont partout. Les oméga 3, c'est l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix, dans certains végétaux, mais il faudra en manger des kilos pour en avoir suffisamment, le pourpier, la mâche, et dans les petits poissons de mer froide crus. Par contre, les oméga 6, on les trouve partout, comme je vous ai dit, dans énormément d'huiles végétales, donc le maïs, le tournesol, le sésame, etc. Dans les graines, dans les céréales, dans la viande, dans le poulet, dans le poisson, donc il y en a partout. C'est rare qu'on en manque. Et on estime qu'en Belgique ou qu'en France, un Belge moyen ou un Français moyen mange un oméga 3 pour 20 oméga 6. Et le ratio idéal serait de 1 pour 1 oméga 3 pour 3 oméga 6, pour 4 ou pour 5, pas plus. Et ce ratio, il va vraiment être super important. parce qu'un déséquilibre va favoriser la prise de poids. La prise de gras, l'inflammation, qui sont quelque part le dénominateur commun de quasi toutes les pathologies d'aujourd'hui. Alors, je m'excuse, je fais une petite parenthèse, mais j'entends parfois des gens qui consomment 6 gélules d'oméga 3. Okay. C'est bien de supplémenter en oméga 3, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la quantité d'oméga 3 qui va être importante, c'est le ratio. Donc si vous augmentez les oméga 3, mais que vous gardez les oméga 6 super élevés, ouais, sorry, ça ne sert à rien. Donc il faut conseiller aux gens de manger moins de viennoiseries, de trucs tout faits, bourrés d'huile végétale, manger un peu moins de viande, etc. Il faut diminuer la quantité d'oméga 6 et en effet complémenter en oméga 3. C'est le ratio qui doit changer. Ça ne sert à rien de complémenter les gens à tort et à travers par des oméga-3. Alors quand les effets de cette supplémentation en oméga-3, ce n'est pas un effet immédiat, hein, on ne va pas commencer à brûler des graisses dès le lendemain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on va changer la paroi de nos cellules. Elle va devenir plus fluide. Et donc, en fait, c'est les échanges qui vont mieux se faire entre l'intérieur et l'extérieur de nos cellules. Et pour ça, il faut en général minimum 3 semaines à 1 mois. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Peut-être juste vous dire qu'en général, les oméga-6... Il ne faut pas avoir peur, même si le corps ne peut pas les fabriquer, on les trouve partout. Et ils sont pro-inflammatoires, ils favorisent l'inflammation, ils favorisent les problèmes cardiovasculaires, ils favorisent l'obésité et le stockage, ils favoriseraient la formation de tumeurs et même la maladie d'Alzheimer. Donc il faut vraiment essayer de diminuer. Par contre, les oméga-3, eux, ils sont très fragiles, ils sont difficiles à trouver, ils sont une source d'énergie, mais ils sont presque jamais stockés. Ils améliorent la sensibilité à l'insuline, ils stimulent la combustion de calories, ils favorisent le déstockage de graisse. Ils ont en effet antidépresseurs, anti-inflammatoires et ils protègent le système cardiovasculaire. Donc on sait que les oméga-3 sont véritablement associés à une moindre mortalité. Alors, je vais diminuer ma consommation en oméga-6 et je vais essayer d'augmenter ma consommation en oméga-3. Des petits trucs, par exemple, prendre une cuillère à café d'huile de lin ou d'huile de cameline par jour. Alors faites attention, elles sont très fragiles comme je l'ai dit, donc il faut surtout garder la bouteille au frigo et acheter des petites bouteilles parce que vous ne pouvez pas consommer... Bon, idéalement pas plus d'une cuillère à café, mais on ne peut pas la consommer après un mois après l'ouverture. Donc vous notez aussi la date sur la bouteille et vous jetez la bouteille après un mois. Faire des mayonnaises maison avec de l'huile de colza. On peut conseiller 2 cuillères à soupe d'huile de colza, par exemple, par jour. Vous pouvez la rajouter simplement sur les légumes qui sont chauds, mais vous ne pouvez pas chauffer cette huile de colza. Et puis, en effet, essayer d'augmenter sa consommation en poisson. Essayer de consommer 350 à 400 grammes de petits poissons, idéalement crus et idéalement des petits, comme ça, ils sont moins chargés en métaux lourds. Ou tout simplement, en effet, utiliser nos compléments. Alors, la dernière catégorie sont les acides gras trans ou les acides gras insaturés qui ont été partiellement... Ce sont des acides gras insaturés qui ont été partiellement hydrogénés. En fait, on utilise ces techniques surtout pour transformer des huiles en graisses solides, comme les margarines. Et puis on les utilise aussi pour obtenir des sortes de textures, du croquant, du fondant, etc. De nouveau, le problème, c'est qu'en effet, on en trouve partout. On utilise ça aussi dans les chips, en fait. Les chips sont aussi des acides gras insaturés, des huiles végétales qu'on va chauffer à haute température. Et c'est quand vous voyez ça sur une étiquette, acides gras, enfin, des huiles hydrogénées, il faut essayer de vraiment fuir ça comme de la peste parce que c'est vraiment pas bon pour la santé. Alors ben forcément, on a à nouveau une solution, j'ai envie de dire, clé en main avec notre énergie diète. On a non seulement le juste équilibre oméga-3, oméga-6, et puis on a un super complexe en oméga-3, parce qu'en effet, j'en ai pas parlé, mais les oméga-3 d'origine de poisson, donc animal, n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés que les oméga-3 d'origine végétale. Donc idéalement, il faut vraiment compléter les deux. Voilà. Et puis le dernier de ces macronutriments sont les glucides, les sucres. Alors 1 gramme de glucides libère environ 4 calories. Les glucides sont vraiment une source essentielle d'énergie. Soit ils sont utilisés directement par notre organisme, par les cellules, soit ils sont stockés sous forme de glycogène dans nos muscles ou dans notre foie. C'est des réserves énergétiques. Soit encore, ils sont stockés par nos tissus adipeux sous forme de triglycérides. Donc on peut les transformer en graisse. Alors les aliments qui contiennent le plus de glucides sont les céréales, les légumineuses, les fruits et bien sûr les bonbons, les sucreries et les sodas, les boissons sucrées. Alors, on va faire la différence entre les sucres lents et les sucres rapides. Donc, on a un indice de mesure qui s'appelle l'indice glycémique, qui nous permet quelque part de mesurer l'impact de ces sucres libérés par les aliments sur le taux de glucose dans notre sang. Donc, on sait que, par exemple, 2 aliments qui contiennent la même quantité de glucides vont avoir un impact sur notre glycémie tout à fait différent. Un aliment avec un indice glycémique élevé va faire monter rapidement et fortement cette glycémie. On va parler d'un glucide rapide. Hein, et puis, on va avoir des aliments avec un indice glycémique bas qui vont faire monter lentement et faiblement cette glycémie. On va parler de sucre lent. Alors, il existe un tas de tableaux qui reprennent les aliments et leurs indices glycémiques. Il ne faut surtout pas les apprendre par cœur, mais ça peut être intéressant d'en imprimer et d'avoir ça sur soi pour pouvoir donner des conseils à ses clients. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'il faut favoriser les sucres avec un indice glycémique en dessous de 55. On peut tolérer quelque part ceux avec un indice glycémique entre 56 et 69. Et il faut essayer d'éviter à tout prix ceux avec un indice glycémique au-dessus de 70. Alors, lorsque nous ingérons des glucides, ils sont digérés et ils sont transformés en glucose qui va se retrouver dans notre sang et qui va quelque part augmenter notre glycémie. Et afin de permettre l'utilisation de ce glucose, notre pancréas va libérer une hormone qui s'appelle l'insuline. Vous avez certainement tous déjà entendu parler de l'insuline, qui va faire redescendre cette glycémie. Si on consomme trop de glucides à indice glycémique élevé, la quantité d'insuline libérée sera importante et le glucose ne sera plus transformé en glycogène, en réserve énergétique quelque part, mais en gras, en triglycérides. Donc, l'insuline libérée en grande quantité va provoquer le stockage de graisse et la prise de poids. C'est important. De plus, une montée rapide de la glycémie va entraîner une chute rapide de la glycémie. Le sucre appelle le sucre, une hypoglycémie réactionnelle. Et puis, le fait de tout le temps stimuler cette fabrication d'insuline, quelque part, on va créer des résistances à cette insuline. Et donc, on va favoriser les maladies de diabète de type 2. Alors, qu'est-ce que je peux faire, quelque part, pour diminuer l'indice glycémique de mes repas ? Tout d'abord, la quantité de fibres, essayer d'augmenter la quantité de fibres. On sait qu'il y a une énorme différence entre une farine blanche ou une farine complète. Donc, plutôt consommer des farines complètes que des farines blanches. On sait aussi que le fait de réduire quelque chose en purée ou de liquéfier quelque chose va augmenter l'indice glycémique. Il vaut mieux manger une orange que de boire du jus d'orange. Il vaut mieux manger une pomme de terre en chemise que manger de la purée. Alors, ne pas trop cuire les aliments. C'est valable pour les légumes, mais c'est surtout valable pour le riz, pour les pâtes, etc. Il vaut mieux consommer des pâtes al dente et il faut idéalement encore mieux les faire refroidir. Je ne vais pas vous expliquer le mécanisme, mais on sait que l'amidon refroidi a un indice glycémique beaucoup plus bas que quand il est chaud. Okay, donc des salades de pâtes, des salades de pommes de terre, c'est quelque part mieux que des pâtes chaudes. Ajouter du vinaigre, du citron, fait diminuer l'indice glycémique. Choisir un pain au levain plutôt que la baguette, peut-être. Et puis la présence de graisse aussi va faire diminuer l'indice glycémique. Donc par exemple, tremper son pain dans un peu d'huile d'olive ou un peu de houmous ou même un bon beurre au lait cru plutôt qu'une tartine va avoir un indice glycémique beaucoup plus bas. Okay. Le niveau de maturité des fruits et des légumes aussi va avoir une influence sur cet indice glycémique. Donc au plus les fruits sont mûrs, au plus l'indice glycémique est élevé. Alors, les bienfaits d'une alimentation peu insulino-stimulante, on va véritablement diminuer le risque de surpoids et donc les complications de diabète de type 2. On va diminuer la faim parce que le sucre appelle le sucre, diminuer les coups de pompe parce que c'est souvent dû à des chutes de glycémie, diminuer les pulsions alimentaires. Et donc il faut tout simplement essayer de se défaire de ce goût sucré. Même les édulcorants ne sont pas bons parce que les édulcorants saturent vos papilles, vous donnent envie de manger du sucre. Ils font malgré tout légèrement augmenter l'indice glycémique aussi. Okay, ils changent votre flore intestinale, donc il faut vraiment essayer de se déshabituer du goût sucré. Et quand ce n'est pas possible, parce que vous faites des pâtisseries par exemple, n'hésitez pas à utiliser des fruits, enfin des sucres naturels, type des bananes, des dattes, etc., pour sucrer vos cakes et vos pâtisseries, ou utiliser un sucre complet, type sucre de canne complet, du muscovado ou du rapadura. Alors par rapport à ça, vous en doutez, on a de nouveau une solution. En fait, l'énergie diète contient des sucres, mais des sucres à indice glycémique bas et moyen. Donc voilà. En conclusion de tout ça, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est assez compliqué, c'est assez technique. Et heureusement, Beauty Sané a pensé à tout, parce que quelque part, il a réussi à simplifier les choses au maximum. Il a réussi à se rapprocher d'un idéal en quelque part réunissant cette macronutrition et bien plus dans chaque mesurette qu'on retrouve dans notre énergie diète. Voilà, je vous remercie de votre attention.